Le petit visage du pape se fripa davantage sous le bonnet fourré. Jean XXII aimait bien le roi Philippe V, auquel il devait sa tiare, et avec lequel il s'était toujours parfaitement accordé pour toutes les questions de gouvernement. Les dernières paroles de Bouville le peinaient.
« Sur l'un et sur l'autre, le châtiment de Dieu s'est appesanti, » reprit Bouville, « puisqu'ils ont chacun perdu dans l'année leur unique héritier mâle. La comtesse a vu mourir son seul fils, qui avait 17 ans, et le jeune roi Philippe a été privé du sien, qui lui était né depuis seulement quelques mois. Et il n'en eut plus jamais d'autre. Mais pour l'accusation élevée contre elle, la comtesse sut se défendre. Elle invoqua l'irrégularité de la procédure engagée devant le Parlement, l'indignité de ses accusateurs. Elle représenta que son rang de pair de France ne la rendait justiciable que de la Chambre des barons. Toutefois, afin, disait-elle, de faire triompher son innocence, elle supplia son gendre, ce fut une belle scène de fausseté publique, de poursuivre l'enquête et de lui donner moyen de confondre ses ennemis. La nécromancienne de Ferrienne et son fils furent entendus à nouveau, mais après avoir subi la question. Leur état n'était pas beau, et le sang leur collait sur tout le corps. Ils se rétractèrent complètement, déclarèrent mensonges leurs aveux premiers et prétendirent qu'il y avait été conduit par caresses, prières, promesses et aussi violences de personnes dont, selon l'acte des greffiers, il convenait de taire les noms pour le moment. Puis le roi Philippe le Long tint lui-même lit de justice et fit comparaître tous ses proches et parents, et tous les familiers de feu son frère, le comte de Valois, le comte d'Évreux, monseigneur de Bourbon, monseigneur Gaucher, le connétable, messire de Beaumont, le maître de l'hôtel, et la reine Clémence elle-même, leur demandant sous la foi du serment s'ils savaient ou croyaient que le roi Louis et son fils Jean fussent morts autrement que de mort naturelle. Comme aucune preuve ne pouvait être produite, comme la séance avait lieu devant tous, et que la comtesse Mao se tenait assise à côté du roi, chacun déclara, bien que pour beaucoup ce fût à contre-conviction, que ces trépas étaient dus à l'œuvre de nature.
« Mais vous-même, vous avez eu à comparaître ?»
Le gros Bouville baissa le front.
« J'ai porté faux témoignage, très Saint-Père, » dit-il. « Mais que pouvais-je, quand toute la cour, les pères, les oncles du roi, les plus proches serviteurs, la reine, veuve elle-même, certifiaient sous serment l'innocence de Madame Mao ? C'est moi qu'on eût alors accusé de mensonge et de fable, et l'on m'eût envoyé me balancer à Montfaucon. »
Il semblait si malheureux, si abattu, si triste, que l'on imaginait soudain, sur son gros visage charnu, les traits du petit garçon qu'il avait été un demi-siècle plus tôt. Le pape eut un mouvement de pitié.
« Apaisez-vous, Bouville, »
dit-il en se penchant et en lui mettant la main sur l'épaule.
« Et ne vous reprochez pas d'avoir mal agi. Dieu vous avait posé un problème un peu lourd pour vous. Votre secret, je le prends à mon compte. L'avenir dira si vous avez bien fait. Vous avez voulu sauver une vie qui vous avait été confiée par le devoir de votre état, et vous l'avez sauvée. Combien en auriez-vous exposé d'autres si vous aviez parlé ?»«
Ah, très Saint-Père, oui, je suis apaisé, » dit l'ancien chambellan. « Mais le petit roi caché, que va-t-il devenir ? Que faut-il en faire ?»«
Attendez sans rien changer, j'y penserai et vous le ferai savoir. Allez en paix, Bouville. »«
Quant à monseigneur de Valois, 100 000 livres sont à lui, mais pas un florin de plus, qu'il me laisse en repos avec sa croisade, et qu'il s'accorde avec l'Angleterre. »
Bouville mit genou à terre, porta la main du Saint-Père à ses lèvres avec effusion, se releva et gagna la porte à reculons puisque l'audience semblait terminée. Le pape le rappela du geste.
« Mon fils, et votre absolution, vous ne la voulez donc point ?»
Un moment plus tard, le pape Jean, demeuré seul, parcourait à petits pas glissants son cabinet de travail. Le vent du Rhône passait sous les portes et gémissait à travers le beau palais neuf. Les perruches pépiaient dans leurs cages. Les tisons du brasero s'assombrissaient. Jean XXII réfléchissait au difficile problème, à la fois de conscience et d'État, qui se posait à lui. L'héritier véritable de la couronne de France était un enfant ignoré, caché dans une cour de ferme. Deux personnes seulement au monde, ou plutôt trois personnes à présent, le savaient. La peur retenait les deux premiers de parler. Que convenait-il de faire ? Quel parti prendre ? Quand deux rois déjà, depuis la naissance de cet enfant, s'étaient succédés au trône, deux rois dûment sacrés, oint du Saint-Crème. Révéler l'affaire et jeter la France dans le plus terrible désordre dynastique. De la semence de guerre encore. Un autre sentiment également incitait le pape à garder le silence, et ce sentiment concernait la mémoire du roi Philippe le Long. Oui, Jean XXII l'avait bien aimé, ce jeune homme, et l'avait aidé de toutes les façons possibles. C'était même le seul souverain qu'il eût jamais admiré et auquel il garda reconnaissance. Ternir son souvenir revenait pour Jean XXII à se ternir lui-même. Car sans Philippe le Long, fut-il jamais devenu pape? Et voilà que Philippe se révélait avoir été un criminel, le complice d'une criminelle tout au moins. Mais était-ce au pape Jean, était-ce à Jacques Duez, de jeter la première pierre? Lui qui devait à de si grosses fourberies et sa pourpre et sa tiare? Et s'il lui avait été absolument nécessaire pour assurer son élection de laisser commettre un meurtre?
Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir épargné pareille tentation. Mais était-ce bien moi qui devais être chargé du soin de vos créatures? Et si la nourrice parle un jour, qu'arrivera-t-il? Peut-on se fier à langue de femme? Il serait bon, Seigneur, que vous m'éclairiez quelquefois. J'ai absous Bouville, mais la pénitence est pour moi.
Il s'était agenouillé sur le coussin vert de son prie-Dieu. Il demeura là longtemps, ses mains maigres enserrant son petit front ridé.